Bouvard et Pécuchet, l'amour. Des jours tristes commencèrent. Ils n'étudiaient plus dans la peur de déception. Les habitants de Chavignolles s'écartaient d'eux. Les journaux tolérés n'apprenaient rien et leur solitude était profonde, leur désœuvrement complet. Quelquefois, ils ouvraient un livre et le refermaient. À quoi bon ? En d'autres jours, ils avaient l'idée de nettoyer le jardin. Au bout d'un quart d'heure, une fatigue les prenait. Ou de voir leur ferme, où ils en revenaient écœurés. Ou de s'occuper de leur ménage. Germaine poussait des lamentations. Ils y renoncèrent. Bouvard voulut dresser le catalogue du muséum et déclara ses bibelots stupides. Pécuchet emprunta la canardière de Langlois pour tirer des alouettes. L'arme éclatant du premier coup faillit le tuer. Donc il vivait dans cet ennui de la campagne, si lourd quand le ciel blanc écrase de sa monotonie un cœur sans espoir. On écoute le pas d'un homme en sabots qui longe le mur, ou les gouttes de la pluie tombées du toit par terre. De temps à autre, une feuille morte vient frôler la vitre, puis tournoie, s'en va. Des glaces indistincts sont apportés par le vent. Au fond de l'étable, une vache mugit. Ils bâillaient l'un devant l'autre, consultaient le calendrier, regardaient la pendule, attendaient les repas, et l'horizon était toujours le même. Des champs en face, à droite l'église, à gauche un rideau de peupliers. Leurs cimes se balançaient dans la brume perpétuellement d'un air lamentable. Des habitudes qu'ils avaient tolérées les faisaient souffrir. Pécuchet devenait incommode, avec sa manie de poser sur la nappe son mouchoir. Bouvard ne quittait plus la pipe et causait en se dandinant. Des contestations s'élevaient à propos des plats ou de la qualité du beurre. Dans leur tête-à-tête, ils pensaient à des choses différentes. Bouvard se considéra dans la glace. Ses pommettes gardaient leur couleur, ses cheveux frisaient comme autrefois, pas une dent n'avait bougé, et à l'idée qu'il pouvait plaire, il eut un retour de jeunesse. Madame Bordin surgit dans sa mémoire. Elle lui avait fait des avances, la première fois lors de l'incendie des meules, la seconde à leur dîner, puis dans le muséum, pendant la déclamation, et dernièrement, elle était venue sans rancune 3 dimanches de suite. Il alla donc chez elle et y retourna, se promettant de la séduire. Depuis le jour où Pécuchet avait observé la petite bonne tirant de l'eau, il lui parlait plus souvent, et soit qu'elle balayât le corridor, ou qu'elle étendît le linge, ou qu'elle tournât les casseroles, il ne pouvait se rassasier du bonheur de la voir, surpris lui-même, de ses émotions, comme dans l'adolescence. Il en avait les fièvres et les langueurs. Il questionna Bouvard sur la manière dont les libertins s'y prennent pour avoir des femmes. « On leur fait des cadeaux, on les régale au restaurant. »« Très bien, mais ensuite ?»«
Il y en a qui feignent de s'évanouir pour qu'on les porte sur un canapé, d'autres laissent tomber par terre leur mouchoir. » Les meilleurs vous donnent un rendez-vous, franchement. » Et Bouvard se répandit en descriptions qui incendièrent l'imagination de Pécuchet comme des gravures obscènes. La première règle, c'est de ne pas croire à ce qu'elles disent. J'en ai connu une qui, sous l'apparence de sainte, était de véritable messaline. Avant tout, il faut être hardi. Mais la hardiesse ne se commande pas. Pécuchet, quotidiennement, ajournait sa décision, était d'ailleurs intimidé par la présence de Germaine. Espérant qu'elle demanderait son compte, il en exigea un surcroît de besogne, notait les fois qu'elle était grise, remarquait tout haut sa malpropreté, sa paresse, et fit si bien qu'on la renvoya. Alors Pécuchet fut libre. Avec quelle impatience il attendait la sortie de Bouvard. Quel battement de cœur dès que la porte était refermée!
Mélie travaillait sur un guéridon près de la fenêtre à la clarté d'une chandelle. De temps à autre, elle cassait son fil avec ses dents, puis clignait les yeux pour l'ajuster dans la fente de l'aiguille.
D'abord, il voulut savoir quels hommes lui plaisaient. Était-ce par exemple ceux du genre de Bouvard?
Oh, pas du tout, elle préférait les maigres.
Il osa lui demander si elle avait eu des amoureux.
Jamais!
Puis, se rapprochant, il contemplait son nez fin, sa bouche étroite, le tour de sa figure. Il lui adressa des compliments et l'exhortait à la sagesse. En se penchant sur elle, il apercevait dans son corsage des formes blanches, d'où émanait une tiède senteur qui lui chauffait la joue. Un soir, il toucha des lèvres les cheveux follets de sa nuque. Il en ressentit un ébranlement jusqu'à la moelle des os. Une autre fois, il la baisa sous le menton en se retenant de ne pas mordre la chair, tant elle était savoureuse. Elle lui rendit son baiser. Ah, l'appartement tourna, il n'y voyait plus.
Il lui fit cadeau d'une paire de bottines et la régalait souvent d'un verre d'anisette. Pour lui éviter du mal, il se levait de bonne heure, cassait le bois, allumait le feu, poussait l'attention jusqu'à nettoyer les chaussures de Bouvard.
Mélie ne s'évanouit pas, ne laissa pas tomber son mouchoir,
et Pécuchet ne savait à quoi se résoudre, son désir augmentant par la peur de le satisfaire. Bouvard, lui, faisait assidûment la cour à Madame Bordin. Elle le recevait, un peu sanglé dans sa robe de soie à gorge pigeon, qui craquait comme le harnais d'un cheval, tout en maniant par contenance sa longue chaîne d'or. Leur dialogue roulait sur les gens de Chavignolles, où défunt son mari, autrefois huissier à Livarot. Puis elle s'informa du passé de Bouvard, curieuse de connaître ses farces de jeune homme, sa fortune, incidemment. Par quels intérêts il était lié à Pécuchet? Il admirait la tenue de sa maison et, quand il dînait chez elle, la netteté du service, l'excellence de la table. Une suite de plats d'une saveur profonde que coupait à intervalles égaux un vieux pommard les menait jusqu'au dessert où ils étaient fort longtemps à prendre le café et Madame Bordin, en dilatant ses narines, trempait dans la soucoupe sa lèvre charnue, ombrée légèrement d'un duvet noir. Un jour, elle apparut décolletée. Ses épaules fascinèrent Bouvard. Comme il était sur une petite chaise devant elle, il se mit à lui passer les deux mains le long des bras. Oh, la veuve se fâcha, il ne recommença plus, mais il se figurait des rondeurs d'une amplitude et d'une consistance merveilleuses. Un soir que la cuisine de Mélie l'avait dégoûté, il eut une joie en entrant dans le salon de Madame Bordin. C'est là qu'il aurait fallu vivre.
Le globe de la lampe, couvert d'un papier rose, épandait une lumière tranquille. Elle était assise auprès du feu, et son pied passait le bord de sa robe. Dès les premiers mots, l'entretien tomba. Cependant, elle le regardait, les cils à demi fermés, d'une manière langoureuse, avec obstination. Bouvard dit un plus, et s'agenouillant sur le parquet, il bredouilla « Je vous aime, marions-nous »
Madame Bordin respira fortement, puis d'un air ingénu, dit qu'il plaisantait, sans doute, on allait se moquer, ce n'était pas raisonnable. Cette déclaration l'étourdissait. Bouvard objecta qui n'avait besoin du consentement de personne. Qui vous arrête? Est-ce le trousseau? Notre linge a une marque pareille, un B. Nous unirons nos majuscules. L'argument lui plut, mais une affaire majeure l'empêchait de se décider avant la fin du mois. Bouvard gémit. Elle eut la délicatesse de le reconduire, escorté de Marianne qui portait un falot. Les deux amis s'étaient caché leur passion.
Pécuchet comptait voiler toujours son intrigue avec la bonne. Si Bouvard s'y opposait, il l'emmènerait vers d'autres lieux, fût-ce en Algérie, où l'existence n'est pas chère. Mais rarement, il formait de ses hypothèses, plein de son amour, sans penser aux conséquences. Bouvard projetait de faire du muséum la chambre conjugale, à moins que Pécuchet ne s'y refusât. Alors, il habiterait le domicile de son épouse. Un après-midi de la semaine suivante, c'était chez elle, dans son jardin, les bourgeons commençaient à s'ouvrir, et il y avait entre les nuées de grands espaces bleus. Elle se baissa pour cueillir des violettes et dit en les présentant « Salut, Madame Bouvard !»«
Comment, est-ce vrai ?»«
Parfaitement vrai. » Oh, il voulut la saisir dans ses bras, elle le repoussa. « Quel homme !» Puis, devenue sérieuse, l'avertit que bientôt, elle lui demanderait une faveur.
« Je vous l'accorde !»
Ils fixèrent la signature de leur contrat à jeudi prochain. Personne, jusqu'au dernier moment, n'en devait rien savoir.
« Convenu ?»
Et il sortit les yeux au ciel, léger comme un chevreuil. Pécuchet, le matin du même jour, s'était promis de mourir s'il n'obtenait pas les faveurs de sa bonne. Il l'avait accompagnée dans la cave, espérant que les ténèbres lui donneraient de l'audace. Plusieurs fois, elle avait voulu s'en aller, mais il la retenait pour compter les bouteilles, choisir des lattes ou voir le fond des tonneaux. Cela durait depuis longtemps. Elle se trouvait en face de lui, sous la lumière du soupirail, droite, les paupières basses, le coin de la bouche un peu relevé. «
M'aimes-tu ? »
dit brusquement Pécuchet.
« Oui, je vous aime. »«
Eh bien alors, prouve-le-moi. »
Et l'enveloppant du bras gauche, il commença de l'autre main à dégrafer son corset. « Vous allez me faire du mal ?»«
Non, mon petit ange, n'aie pas peur. »«
Oh, si Monsieur Bouvard, je ne lui dirai rien, sois tranquille. »
Un tas de fagots se trouvait derrière, elle s'y laissa tomber, les seins hors de la chemise, la tête renversée, puis se cacha la figure sous un bras, et un autre eut compris qu'elle ne manquait pas d'expérience. Bouvard bientôt arriva pour dîner. Le repas se fit en silence, chacun ayant peur de se trahir. Mélie les servait, impassible, comme d'habitude. Pécuchet tourne les yeux pour éviter les siens, tandis que Bouvard, considérant les murs, songeait à des améliorations. 8 jours après, le jeudi, il rentra furieux.
« La sacrée garce !»«
Qui donc ?»«
Madame Bordin !»
Et il conta qu'il avait poussé la démence jusqu'à vouloir en faire sa femme. « Ah, mais tout était fini depuis un quart d'heure, chez Maresco !» Elle avait prétendu recevoir en dot les écales dont il ne pouvait disposer, l'ayant comme la ferme soldée en partie avec l'argent d'un autre. « Effectivement, dit Pécuchet, et moi, qui ai eu la bêtise de lui promettre une faveur à son choix, c'était celle-là. J'ai mis de l'entêtement. Si elle m'aimait, elle m'eût cédé. La veuve, au contraire, s'était emportée en injures, avait dénigré son physique et sa bedaine. « Ma bedaine, je te demande un peu !» Pécuchet, cependant, était sorti plusieurs fois, marchait les jambes écartées.
« Tu souffres ?» dit Bouvard.
« Oh, oh oui, je souffre !» Et ayant fermé la porte, Pécuchet, après beaucoup d'hésitation, confessa qu'il venait de se découvrir une maladie secrète.
« Toi ?»
Moi-même.
Oh, mon pauvre garçon, qui te l'a donné ?
Il devint encore plus rouge et dit d'une voix encore plus basse.
Ce ne peut être que Mélie. Bouvard en demeura stupéfait.
Oh, la première chose était de renvoyer la jeune personne. Elle protesta d'un air candide. Le cas de Pécuchet était grave pourtant. Mais, honteux de sa turpitude, il n'osait voir le médecin. Bouvard imagina de recourir à Barberoux. Ils lui adressèrent le détail de la maladie pour le montrer à un docteur qui la soignerait par correspondance. Barberoux y mit du zèle, persuadé qu'elle concernait Bouvard, et l'appela « vieux roquentin » tout en le félicitant. « À mon âge, disait Pécuchet, n'est-ce pas lugubre ? Mais pourquoi m'a-t-elle fait ça ?
Tu lui plaisais ? Elle aurait dû me prévenir. Est-ce que la passion résonne ? Et Bouvard se plaignait de Madame Bordin. Souvent, il l'avait surprise arrêtée devant les écales dans la compagnie de Maresco, en conférence avec Germaine. Tant de manœuvres pour un peu de terre. Elle est avare, voilà l'explication. Ils ruminaient ainsi leur mécompte dans la petite salle au coin du feu. Pécuchet, tout en avalant ses remèdes, Bouvard en fumant des pipes, et ils dissertaient sur les femmes. Étrange besoin, est-ce un besoin? Elles poussent au crime, à l'héroïsme et à l'abrutissement. L'enfer sous un jupon, le paradis dans un baiser, ramage de tourterelles, ondulation de serpents, griffes de chats, perfidie de la mer, variété de la lune, ils dirent tous les lieux communs qu'elles ont fait répondre. C'était le désir d'en avoir qui avait suspendu leur amitié. Un remords les prit. Plus de femmes, n'est-ce pas? Allez, vivons sans elles. Et ils s'embrassèrent avec attendrissement. Il fallait réagir et Bouvard, après la guérison de Pécuchet, estima que l'hydrothérapie leur serait avantageuse. Germaine, revenue dès le départ de l'autre, charriait tous les matins la baignoire dans le corridor. Les deux onze hommes, nus comme des sauvages, se lançaient de grands sauts d'eau, puis ils couraient pour rejoindre leur chambre. On les vit par la claire-voie, et des personnes furent scandalisées. Satisfaits de leur régime, ils voulurent s'améliorer le tempérament par de la gymnastique.